au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto 360. Nous allons parler automobile au cours des deux prochaines heures. Une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque je vais vous quitter un petit peu plus tard au cours de l'émission, mais je vais vous laisser au bon soin de Marc Bouchard, bien sûr, que je salue immédiatement. Salut Marc!
Salut mon cher!
Comment ça va?
Ça va très bien. Un peu grippé, j'ai l'impression que j'ai attrapé ton syndrome, mais c'est moi qui ai une voix de camionneur aujourd'hui. Là.
Ça va beaucoup mieux. Et bien sûr, un petit peu plus tard aussi à l'émission, nous allons parler à Philippe Lagu, bien sûr, parce que Philippe a encore de belles choses à nous dire. Et nous avons encore une fois, bien sûr, une question du jour.
Oui, une question qui devrait susciter pas mal de discussions parce que c'est par rapport à ce qui se présente actuellement à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le ministre des Transports a décidé qu'il serrait la vis en matière de sécurité routière. Il a proposé différentes mesures. En fait, les mesures n'ont pas toutes été déposées encore, mais ce que l'on sait, c'est que l'on veut d'une part que les jeunes conducteurs qui ont un permis d'apprenti n'aient plus l'autorisation de conduire entre minuit et 5 heures, qu'ils n'aient pas le droit à plus de passagers qu'il faut. Évidemment, on augmente les amendes pour les textos, ce qui est... Et on ramène les pneus d'hiver au 15 novembre obligatoire. Alors, la question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec une de ces mesures-là, avec plusieurs, ou si vous trouvez que vraiment le gouvernement en fait un peu trop et vient jouer un peu dans votre portefeuille et dans votre vie de façon un peu trop intense?
D'entrée de jeu, je peux te dire, Marc, que le 15 novembre pour les pneus d'hiver, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Surtout pour, on devrait y aller pour la région de Québec, je pense pour le Nord, s'il n'y a pas de problème, on peut le faire. Pour la région de Montréal, lorsqu'on s'en vient, le centre et la région de Montréal, le problème, c'est qu'on va devoir commencer à installer les pneus à la fin septembre.
Wow, donc, c'est ça le problème,
installer
en fait.
Les pneus, c'est la disponibilité d'ateliers là, qui va être compliquée pour installer tous ces pneus d'hiver pour arriver à date au 15 novembre. Alors moi, je trouve que ça, cette mesure-là, c'est un peu trop tôt parce que on va user prématurément les pneus d'hiver. Puis ça coûte une fortune.
Ouais. D'un autre côté, par contre, Daniel, il faut se rappeler que les pneus d'hiver, c'est pas bon uniquement quand il y a de la neige, mais c'est bon quand il fait 7 degrés ou moins. Ouais. Et tu seras d'accord avec moi que dans le cas des trois quarts de la province de Québec, 7 degrés le 7 novembre, on est là-dedans pas mal, là.
Ben oui, c'est sûr.
Fait qu'il faut trouver un moyen terme. Moi, je pense que le 1er décembre aurait été un bon choix, bien que, ironie du sort, tu remarqueras que dans la plupart des municipalités du Québec, c'est à partir du 15 novembre que tu n'as plus le droit de te stationner dans les rues pour le déneigement hivernal. Ben, on va m'expliquer ça.
Et l'autre mesure concernant les jeunes, c'est... Je sais pas. Les empêcher de conduire la nuit, leur imposer un genre de couvre-feu... C'est peut-être vouloir pénaliser la masse pour quelques personnes qui osent être... C'est encore une fois tout le monde qui va payer pour, tu sais.
C'est ça. Mais faut quand même préciser que les jeunes constituent 10% des permis de conduire, mais 30% des accidents. Fait que, oui, il y a vraisemblablement un problème à certains niveaux. Les accidents se déroulent surtout de nuit, ça je peux comprendre. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans le cas de quelqu'un qui a un permis probatoire, donc qui a le droit de conduire, l'empêcher de rouler de nuit, ça veut dire l'empêcher d'avoir un travail qui va lui permettre de financer ses études très souvent. Ça veut aussi dire l'empêcher d'être le chauffeur désigné pour certains de ses amis qui, eux autres, ont pas nécessairement respecté le fait que c'est zéro alcool.
Exact.
Donc, lui ne pourra plus être chauffeur désigné. Donc, c'est un drôle de message qu'on envoie. Dans le cas des apprentis, cependant, ceux qui doivent être accompagnés de quelqu'un, ben là, évidemment, ça s'explique de ne pas conduire de nuit. Ce qui, moi, m'interpelle plus, et je trouve que c'est une bonne idée, c'est de limiter le nombre de passagers à bord des véhicules. Parce que, tu le sais, Daniel, quand on est en voiture, même toi et moi, on est un groupe, on parle fort, on met de la musique dans le tapis, on fait les fous un peu, c'est plus difficile de rester concentré. Nous, on a l'expérience, quelques années derrière la cravate au volant. Dans le cas des jeunes conducteurs qui ont leur permis depuis un an ou deux, c'est effectivement très, très distrayant. Donc, il faut peut-être trouver un moyen, mais pas de là au point de les empêcher de conduire entre minuit et 5 heures. Je trouve que là, vraiment,
nombre,
on pousse un peu loin. Là.
Le nombre de passagers aussi, bien, au lieu d'être 4 dans la voiture, si tu es obligé d'être 2, bien, les deux autres vont devoir peut-être prendre une autre voiture. Donc, ça peut ajouter une voiture dans la circulation. Alors là, c'est, je ne sais pas encore une autre fois. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. J'ai vraiment hâte.
Ben, moi aussi, ce que je peux te dire, en fait, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, on a déjà essayé d'empêcher les jeunes de conduire la nuit. On est revenu sur un autre système parce que ça marchait pas. En Ontario, même chose, les apprentis n'ont pas le droit de conduire de nuit ou n'ont pas le droit de conduire sur les autoroutes, les fameuses routes 400, là. Mais une fois que le permis d'apprenti est passé, ils ont le droit de le faire, mais avec un nombre limité de passagers. Je pense qu'on devrait tout simplement se marier avec ce qui se fait chez nos voisins. Pour une fois qu'ils ont une bonne idée, on va quand même leur donner.
Alors voilà pour la question, on va la répéter un petit peu plus tard, Marc, tantôt. Juste avant, faut parler des voitures qu'on conduit, parce que souvent on l'oublie d'en parler des voitures qu'on conduit. Cette semaine, j'ai le Volkswagen Atlas, véhicule qui vient s'immiscer entre le Tiguan et le Touareg. Le Touareg qui, tranquillement, évidemment, va nous quitter, là, mais est en train de nous quitter. Mais il y en a encore, il y en a encore. Donc on peut dire qu'il est un peu entre deux. C'est un gros véhicule, donc c'est un sport utilitaire plein de grandeur, qu'on peut avoir avec différentes configurations, moteur 6 cylindres ou encore moteur 4 cylindres avec le nouveau 2 litres qui offre de belles performances, la traction intégrale. Moi, d'entrée de jeu, première fois que je l'ai vu à Détroit, je me souviens, j'ai dit « Ah! » Au niveau du style Volkswagen, je ne sais pas vers où on s'en va. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Je trouve qu'on n'a pas suffisamment osé au niveau du design extérieur, surtout la partie avant. Le reste, ça va. J'ai rien à dire pour le reste. La partie avant, j'aurais aimé qu'on soit qu'on ose, qu'on soit plus moderne dans son rendu. Je pense que ça va quand même bien vieillir, sauf que j'aurais aimé un style un peu différent pour ce qui est de la partie avant. Même, j'aurais aimé copier le Tiguan, tant qu'à faire.
Ouais. Ben effectivement, c'est une bonne analyse parce que c'est effectivement le problème. L'Atlas n'a pas de personnalité qui lui est propre. Il est un peu passe-partout dans son look. C'est la même chose à l'intérieur. On aime ou on n'aime pas. Là, moi, je trouve que l'intérieur aussi est un peu trop sobre et malheureusement, ça joue contre lui. Par contre, en termes d'espace, on va le dire, c'est un gros utilitaire. Là, c'est plus long que le Touareg. C'est facile de recevoir bien des gens. Tu parlais du moteur 4 cylindres 2 litres. C'est un excellent moteur sur le Tiguan. Je t'avoue que je ne l'ai pas essayé sur l'Atlas. J'ai un petit peu de réserve parce que j'ai l'impression qu'il manquerait peut-être un peu de nervosité par rapport au poids du véhicule qui est quand même beaucoup plus imposant que ne l'est le Tiguan, par exemple.
Mais on se doit de l'offrir. Aujourd'hui, les gens qui restent en ville, pas besoin de trop de performance, pas besoin de capacité de remorquage, quand même, c'est un utilitaire sport, puis il y a le mot utilitaire qui peut être utile dans le cas de l'Atlas parce que c'est 5000 livres quand même de capacité de remorquage. Donc, c'est un très bon point. La finition, les matériaux, mais l'intérieur, je voulais y arriver. Le bloc instrument qui est 100% digital, ça, c'est déjà très moderne. Le bloc instrument qui est incliné, le haut est incliné vers le conducteur. Habituellement, c'est la base du bloc instrument qui est incliné vers le conducteur. Donc, c'est un peu spécial, c'est un peu différent, j'aime ça. Par contre, le design est un peu sobre, un peu fade. La console centrale, le système d'exploitation Bravo, hein, pour marier son téléphone cellulaire, pour aller jouer dans les paramètres, c'est superbe, c'est bien fait, mais comme c'est sobre, et ça me fait dire, parenthèse, parce que ça s'applique pas seulement au Volkswagen Atlas, mais parenthèse, on voit qu'on n'ose pas à l'intérieur. On n'ose pas moderniser et aller plus loin parce que je me souviens, il y a plusieurs années, tu voyais des véhicules concept avec l'intérieur, c'était flyé, entre guillemets. Tu sais, on osait, on faisait les choses un peu différemment. Et là, c'est la sobriété totale.
Audi propose aussi des intérieurs qui sont vraiment magnifiques, qui sont bien faits. Alors, je m'attendais de Volkswagen qu'on ait sensiblement le même genre. Malheureusement, comme tu le dis, tout est électronique, ça va bien au niveau de l'affichage. Oui. Pour le reste, c'est un peu ordinaire. Un bon mot aussi pour le V6, qui est en fait un VR6. Oui. Donc, on a modifié l'inclinaison des cylindres. 276 chevaux, capacité de remorquage de 5000 livres. C'est quand même, dans la portion utilitaire du véhicule, on a bien fait... Au niveau de la conduite, cependant, on n'est pas nécessairement dans quelque chose d'ultra différent de ce qui se retrouve ailleurs.
Attendez-vous pas à la conduite d'un Touareg. T'sais, c'est pas aussi ferme, c'est pas aussi assumé qu'un Touareg, mais il reste que ça va bien, c'est doux, c'est silencieux, c'est un véhicule fait pour faire de la route, c'est confortable, les sièges, les ajustements, il n'y a aucun problème, donc c'est vraiment un véhicule que vous allez apprécier partir en vacances avec, vous allez avoir de l'espace et vous allez avoir de l'insonorisation, vous allez avoir un beau comportement routier, ça va aller superbe. Le temps file, Marc, je veux que tu me parles de ton véhicule que toi t'essaies, c'est encore dans le sport utilitaire, c'est le Stelvio.
Ouais, mais moi, tu vois, on a oublié un peu l'aspect utilitaire, puis on a conservé plus l'aspect sport. C'est l'Alfa Romeo Stelvio, effectivement. C'est un véhicule qui, du point de vue du look, est dans la partie avant, en tout cas, est absolument spectaculaire. La calandre Alfa Romeo, moi, j'adore ça, avec les phares super effilés. En arrière, on s'entend pour dire que c'est plus ordinaire, mais quand même, c'est super bien réussi. La particularité, la beauté de ce véhicule-là, bien sûr, moteur 4 cylindres 2 litres de 280 chevaux, boîte automatique 8 rapports, il est nerveux, il est agréable. Il y a bien sûr les trois modes de conduite, le ADN ou DNA, ça dépend dans quel ordre tu le lis, là, dynamique, normale et all-terrain, donc un peu plus économique. En mode dynamique, c'est vraiment un véhicule qui se comporte comme une voiture sport sur la route.
C'est une Giulia.
Ah, c'est incroyable, ouais. Mais je ne pensais pas, malgré les dimensions plus imposantes, malgré le fait qu'il est quand même beaucoup plus haut que la Giulia, il se comporte aussi bien que la voiture. Il rentre en trajectoire comme s'il était soudé sur des rails. Honnêtement, j'ai été très impressionné de ce véhicule-là. Tu parlais des intérieurs un peu ennuyeux tantôt avec Volkswagen. Je dois dire que l'Alfa Romeo, on n'est pas non plus dans le grand drame et le grand frisson. Notamment leur système d'affichage multimédia, multifonction au centre. Un écran, tu sais, en cinéma, on appelle ça du 16-9, là. Tu sais, pas très haut, mais très large. C'est un peu comme ça. Donc, quand on a le GPS, on cherche tout le temps. C'est pas simple. Par contre, la connexion se fait bien. Donc, c'est un usage facile. Très, très confortable, une belle qualité de finition. Honnêtement, c'est un véhicule qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup impressionné au niveau de la conduite. J'ai été très impressionné.
On s'arrête et au retour, le bloc nouvelle.
Au réseau Cogeco, Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Nous voilà de retour à Auto 360 et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Marc, on a quand même plusieurs nouvelles. Puis la première, tu vas me parler d'un lutteur.
John Cena, c'est un monsieur qui, semble-t-il, pourrait recevoir une grosse amende par rapport à un geste qu'il a posé face à Ford. Alors, faut rappeler que John Cena, c'est un grand amateur de voitures. Il a une belle collection. Et il s'est acheté une des premières Ford GT, la nouvelle génération, que Ford a lancée.
Déjà, il était chanceux d'en avoir une parce que Ford fait une sélection minutieuse des gens à lesquels il ose envoyer une voiture.
Écoute, ils estiment que 69% des acheteurs de la nouvelle Ford GT étaient des propriétaires d'une ancienne génération de Ford GT. Fait que déjà là, ça plaçait le niveau assez élevé. Bon.
Ouais.
Ceci étant dit, une fois que tu avais traversé toutes les étapes, parce que c'était compliqué, tu avais un formulaire à remplir et on analysait même ta présence sur les réseaux sociaux, on te faisait signer un contrat d'achat stipulant que tu n'avais pas le droit de vendre la voiture dans un certain délai.
C'est 4 ans.
Ah, c'est ça. Ah, Monsieur Cena, un mois après avoir pris possession de son véhicule, l'a revendu immédiatement avec, dit-on, un profit assez subséquent.
Oh.
Alors, évidemment, Ford n'a pas laissé faire ça. Ils ont donc envoyé une mise en demeure. Ils veulent poursuivre John Cena, non seulement pour avoir le montant des profits. Ils veulent empocher les profits eux-mêmes.
Okay.
Ils réclament aussi 75 000 $ en dommages et intérêts parce qu'ils disent que ça nuit à l'image de la marque et à l'image, bien sûr, du modèle de la Ford GT.
Ça nuit à l'image de quoi? Tu sais, tu revends une voiture que tu as achetée et que tu as payée. Ford ont placé un prix sur ce véhicule-là. Il a payé le prix du véhicule. Et là, on n'a plus le droit de vendre des véhicules. Là, c'est rendu du contrôle là, à l'extrême. Là.
Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'on a tellement peur que il y a tellement peu de véhicules et on veut tellement qu'ils gardent leur valeur au niveau des collectionneurs qu'on ne veut pas que le marché soit tout à coup inondé
de
certains modèles.
Là, ce qu'on comprend, c'est que Ford veut que les gens la revendent, mais ils veulent empocher les profits. Donc, on veut contrôler les profits ou les surprofits qu'on pourrait faire avec cette voiture-là. Ford veut les empocher. Alors, ça, c'est un peu, justement, un peu spécial. Autre nouvelle, c'est le I-Pace.
Oui, le I-Pace, le fameux Jaguar I-Pace, qui est le véhicule magnifique que Jaguar a dévoilé, qu'on attendait, disait-on, là, on l'attendait à Los Angeles, on l'a vu effectivement à Los Angeles, mais le vrai véhicule, il va falloir attendre parce que c'est, semble-t-il, au salon de Genève seulement qu'on va le voir. On verra ce que ça va donner. Il faut rappeler que le prototype, on parlait de 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, 400 chevaux total, 516 livres-pieds de couple, 0-100 en 4 secondes, autonomie de 400 km ou à peu près. Donc, c'est ce véhicule-là et c'est directement un compétiteur à la Tesla Model X, on le sait, en étant beaucoup...
À une fraction du prix.
C'est ça. Beaucoup, beaucoup moins cher et probablement beaucoup, beaucoup plus fiable. Attendez, je vais me taper dessus.
OK, ouais, c'est ça, tu fais bien.
Pour être une mauvaise langue. Mais effectivement, donc, on nous dit qu'il faudrait attendre au mois de mars, donc au Salon de Genève, pour avoir la version définitive de ce Hi-Pace, qui est un véhicule absolument magnifique. Il faut le préciser.
Absolument.
Parlant d'utilitaire sport puissant, oui? Mon ami... Si jamais ça te tente de mettre ça sur ma liste de cadeaux de Noël, Lamborghini a enfin sorti son utilitaire, le Urus. Un autre véhicule complètement fou. Un moteur 8 cylindres 4 litres, 2 turbocompresseurs, 650 chevaux, 627 livres-pieds de couple. C'est un monstre absolu. Autre surprise, on vient de dévoiler la liste des 10 véhicules les plus volés au Québec. Et si je te demandais ton avis,
ouais,
probablement que tu l'aurais pas le numéro 1.
Non, ben le Honda Civic. Ça a toujours été le Honda Civic, la Volkswagen Golf sont toujours parmi les plus volés.
Ben, tu vois, ces deux modèles-là ne sont même pas dans le top 10. Ben, on est dans une période, en fait, où les camions ont la cote. C'est assez
impressionnant. Ça va être le marché, c'est pas fou.
Non, puis honnêtement, il y a seulement deux autos qui sont là-dedans. C'est la BMW 328, hein? Qui est un cabriolet. Okay, qui est en quatrième position. Et il y a la Subaru Impreza, une vieille Subaru Impreza 2002, qui est encore parmi les plus volés, qui est en huitième position. Donc, c'est assez surprenant. Les autres, écoute, on parle du Toyota 4Runner en première position. C'est le véhicule le plus volé. Toyota Tundra, deuxième plus volé. Un autre 4Runner, mais 2015, celui-là, en troisième position. Donc, on est vraiment dans les gros camions.
Voyons, les 4Runner, ils s'en vendent 30 par année au Québec. Même pas.
Ouais, ben, ça a l'air qu'ils se font tous voler parce qu'ils sont, ils sont qualifiés. Mais c'est rien. Imagine, en cinquième position, c'est l'Infiniti QX70.
Il y en a encore moins.
Écoute,
il y en a eu 17, puis les 17 se sont fait voler. C'est ça?
Exactement.
Après ça,
normalement,
on tombe là, c'est des véhicules peu fiables qui se font voler ou des véhicules qui ont en masse où il y a de la demande de pièces.
Ben, souvent, ou des véhicules qui ont une demande ailleurs. C'est souvent des véhicules qu'on va embarquer dans des containers puis qu'on va aller promener ailleurs sur d'autres continents, ouais, où il y a un marché pour les gros utilitaires plus imposants.
Effectivement. C'est ce qu'on constate.
Ford F-250 sont là aussi. Et finalement, en dixième position, c'est le Jeep Wrangler Unlimited qui est aussi là. Donc, quand même impressionnant de voir qu'il n'y a à peu près pas de berlines et qu'il n'y a à peu près pas de voitures. Vraiment là.
Ben oui, des berlines, tu sais, des Honda Fit, ça devrait être dans la liste. Les petites Yaris devraient aussi être dans la liste parce que souvent, parce qu'il y en a beaucoup sur la route,
ben oui,
sont populaires et il devrait y avoir des demandes de pièces. Donc, ce que tu dis, d'après moi, c'est vrai. T'as fessé dans le mille parce que les véhicules volés, avant, on allait les chercher pour les pièces. On les volait pour les démanteler et offrir les pièces sur le marché. Et là, présentement, ce que je peux voir, c'est qu'on vend les véhicules ou on vole les véhicules pour les revendre à l'étranger ou les envoyer dans des marchés, évidemment, émergents, là où t'as pas besoin des immatriculés. Puis des 4Runner, t'envoies ça dans n'importe quel marché, en Afrique, partout, en Arabie Saoudite, et ces véhicules-là sont faits pour ces marchés-là.
Même chose pour le Tacoma, qui permettent d'aller à peu près n'importe où. Donc, évidemment, c'est le genre de véhicule qui vont se vendre assez bien. Une dernière petite nouvelle, si tu permets.
Oui.
On parle de camions. GM, ben tu sais, Ford avait vraiment fait jaser tout le monde en amenant le Ford F-150 fait en aluminium. Bon, tu sais, tout le monde avait ri un peu d'eux autres. Finalement, ça s'est plutôt bien déroulé. Alors, GM a décidé que pour son prochain Silverado, non seulement ils utiliseraient de l'acier et de l'aluminium, mais ils ajouteraient de la fibre de carbone pour l'ensemble de la boîte arrière. L'idée, évidemment, c'est qu'on veut conserver la solidité tout en limitant le poids. Donc, c'est déjà fait. On a vu passer quelques photos espions de ce nouveau Silverado, dont la boîte serait 80% en fibre de carbone. La question, c'est, un, ça va coûter combien à l'achat? Parce que c'est pas donné de la fibre de carbone, on le sait. Et deuxièmement, ça va coûter combien à faire réparer? Parce que de la fibre de carbone qui se casse, ça casse comme il faut.
Oui, absolument. C'est étonnant. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a parlé du salon de l'auto de Los Angeles et il y avait une boîte de F-150 en aluminium dans le kiosque de GM. Et il y avait une boîte, évidemment, là, en acier de GM où on avait fait tomber des objets dedans et tu voyais que la boîte en aluminium était transpercée et celle de GM était seulement bossée. Alors, j'espère qu'on va ajouter maintenant la boîte en fibre de carbone pour voir la différence.
Moi, comme je te dis, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment le prix d'achat de ça. Parce qu'écoute, on le sait, il y a quelques véhicules actuellement qui utilisent beaucoup les fibres de carbone. Je pense à BMW, entre autres, avec sa i3, sa i8. Et tu as vu la facture que ça génère. C'est pas fait pour ma bourse cette semaine non plus.
Voilà. Et au retour, on s'entretient avec Philippe Lagu.
Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360. Avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Voilà, nous sommes de retour à Auto 360 et je suis certain que vous vous demandiez, mais il est où Philippe Lagu? Ben le voici. Salut Philippe.
Salut Daniel.
Ça va?
Ben oui, j'arrive. J'arrive de la Colombie-Britannique. J'arrive tout juste d'un lancement Buick.
Hein? Puis de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Enclave, quel nom a couché dehors, je le sais, mais c'est pas grave, vous pouvez pas se fier au nom, c'est un véhicule qui a des belles qualités.
Alors, oui.
Mais tu vois, j'arrive d'un lancement Buick, et on s'est fait une fierté pendant que j'étais là, là de mentionner, puis trois fois plutôt qu'une, que Buick était la plus vieille marque en Amérique du Nord. Moi, à leur place, je m'en vanterais pas trop, hein, parce que regardez ce qui est arrivé à Oldsmobile, là. C'est
ouais,
ça.
Hein?
Ouais.
Mais c'est pas un présage. Je pense qu'on veut vraiment essayer de repositionner Buick comme étant un constructeur un peu plus haut de gamme.
Non, mais tu l'as bien dit, c'est pas un présage parce que le contexte est vraiment différent. Oldsmobile a disparu en 2004 parce que ses ventes étaient en chute libre. Et ça, ben, ça a forcé GM à tirer la plug, là, comme on dit chez nous. Là. Tandis que Buick est encore là grâce, hein, vous le savez peut-être, à la Chine. Parce que 80% des Buick vendus sur la planète sont vendus en Chine.
Le marché est plus gros qu'aux États-Unis.
Et c'est ça. La Chine est devenue, là, au cours des dernières années, le premier marché en importance de l'industrie automobile devant l'Amérique. Ça, c'est pas rien, là. Historiquement, depuis que l'automobile existe, ça avait toujours été les États-Unis le plus gros marché. Alors là, c'est vraiment énorme ce que la Chine vient de faire de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs son succès asiatique qui a sauvé Buick parce que quand GM a été forcé d'éliminer quatre de ses marques là, dans le processus de rationalisation qui avait suivi sa retentissante faillite en 2009, ben, il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi Buick y avait échappé. Alors là, maintenant, vous avez la réponse. Puis une autre preuve, Daniel, que la marque est loin d'être en déclin. En 2015, Buick a vendu un peu plus de 1,23 million de véhicules dans le monde, ce qui demeure son record à ce jour. Et quand GM était à son apogée là, entre les années 30 et 70 à peu près, là, la division Buick, faut le rappeler, là, ça se situait juste un cran en dessous de Cadillac. Puis à cette époque-là, la voie était tracée, hein, puis le parcours était simple là, chez GM. Quand un jeune adulte nord-américain arrivait sur le marché du travail, il s'achetait une Chevrolet parce que c'était la marque la moins chère. Ensuite, si ses revenus augmentaient, il pouvait accéder à l'échelon suivant, qui était Pontiac. Si son ascension sociale et professionnelle se poursuivait, il pouvait monter d'une autre marche et s'acheter une Oldsmobile. Et là, ensuite, on arrivait aux marques de prestige. Alors, une Buick, là, c'était la confirmation de votre réussite, de votre prospérité. Puis quand on avait atteint le sommet, on roulait évidemment en Cadillac.
Voilà.
Alors aujourd'hui, en 2017, Oldsmobile et Pontiac n'existent plus, mais Buick se situe toujours entre Chevrolet et Cadillac. Alors c'est donc toujours une marque, entre guillemets, là, premium, mais qui s'est métamorphosée depuis l'effondrement de GM et sa renaissance. Mais avant de parler de la métamorphose de Buick, je vais vous ramener à ses origines. Alors, officiellement, la Buick Motor Company existe depuis le 19 mai 1903. Ça, c'est son acte de naissance. Elle est fondée par David Dunbar Buick, qui est un entrepreneur et un inventeur d'origine écossaise et qui est déjà en affaires depuis quelques années. Il a racheté, avec un associé, l'entreprise de plomberie pour laquelle il travaillait en 1882. Puis là, la combinaison est parfaite. Parce que Buick, c'est le créatif. Celui qui est le plus inventif des deux, puis son associé, c'est le gestionnaire. Entre autres inventions, Buick va créer un nouveau procédé d'émail pour les baignoires. Il va aussi créer un appareil pour l'arrosage de pelouse. Bref, on est loin de l'automobile encore.
Je comprends.
Oui, mais son esprit inventif va l'amener à s'intéresser aux moteurs à explosion. Alors, c'est un secteur qui est prometteur à ce moment-là. Et en 1899, David Buick va créer une nouvelle compagnie, la Buick Auto Vim and Power Company. Et c'est cette compagnie qui va produire les deux premières automobiles qui portent le nom Buick. Et à partir de là, la compagnie va se concentrer sur les automobiles, en fait, à partir de 1903. Et c'est là qu'on va changer le nom. Et à l'origine, la Buick Motor Company a pignon sur rue à Détroit. Mais là, il va y avoir un autre changement de propriétaire qui va entraîner son déménagement à Flint, toujours au Michigan. On sait que Flint, ça a longtemps été surnommé Buick City. Le problème, c'est que Buick est un idéateur, un créateur, mais c'est vraiment un sous-doué de la gestion. Ça, là, il l'a pas. C'est pas dans ses cordes.
C'est souvent comme ça.
Ouais, malheureusement. Ouais. Et un an après sa création, ben, sa compagnie est déjà en difficulté, puis elle est rachetée par son partenaire financier. Buick, par contre, va rester à l'emploi de la marque, mais il n'en est plus le propriétaire. Puis d'ailleurs, il va y avoir deux autres changements de propriétaire au cours de ces deux années mouvementées. Et le résultat, c'est qu'à la fin de 1904, c'est William Crapo Durant, le plus gros fabricant de carrioles aux États-Unis, qui contrôle Buick. Et c'est Durant qui va donner un véritable élan à Buick, parce que là, en 4 ans, la production va passer de 37 véhicules à 8 800. Et ça, ça fait à ce moment-là de Buick le premier constructeur américain en importance, là, en 1908, devant Oldsmobile et devant Ford. Et là, à partir de là, on peut dire que l'histoire s'écrit. Entre-temps, David Buick a vendu ses parts et il se retire complètement du milieu de l'automobile en 1906, juste avant l'essor de sa marque. Hein. Mauvais timing, mais il a quand même encaissé de l'argent quand il a vendu ses parts, là. Il est mort dans la misère, mais en principe, s'il avait bien géré ses affaires, il n'aurait pas dû mourir dans la misère. Mais bon, ceci est une autre histoire, parce que là, on va poursuivre l'ascension de Buick, parce que de son côté, William Crapo Durant fonde General Motors. Et ça, c'est en grande partie grâce aux profits engendrés par Buick. Et tout ce que je viens de vous raconter, là, ça s'est passé en l'espace de 4 ans, là, entre 1904 et 1908. Ouais. Et William Durant, lui, ne veut pas que ses marques se fassent concurrence. Au contraire, il veut que ses marques visent chacune une catégorie d'acheteurs, du plus modeste au plus fortuné. Alors, dans son organigramme, que je vous ai expliqué il y a quelques secondes, ben, il place Chevrolet en bas de l'échelle et Buick en haut, juste en dessous de Cadillac. Et dès le début de son existence, la marque Buick va se faire connaître par ses innovations. Entre autres, c'est à Buick que revient l'invention du premier moteur à soupape en tête.
Ah ben.
Et c'est aussi Buick qui, en 1948, va introduire le convertisseur de couple sur sa célèbre transmission automatique Dynaflow.
C'est ce qui a changé complètement la transmission automatique.
Complètement, effectivement. Et c'est encore Buick qui va produire les premières voitures sans montant, sans trou, les célèbres hardtop. Alors, la première voiture hardtop deux portes en 1949, c'est une Buick. Et la première hardtop quatre portes en 1955, c'est aussi une Buick. Bon, parmi les modèles les plus connus, on peut mentionner les Century et Le Sabre, hein, deux noms qui ont été utilisés pendant plusieurs décennies, mais aussi des noms célèbres de l'histoire de Buick, le Roadmaster, Electra, Wildcat, et surtout, n'oublions pas la superbe Riviera, et là je parle de celle du début des années 60.
Hein. Je pensais que tu parlais de celle des années 90.
Non, tellement pas! Mon Dieu, épouvantable ça. Alors non, vraiment celle des années 60, celle qui est considérée d'ailleurs aujourd'hui comme un classique, celle qui a été dessinée par Bill Mitchell. Il y en a plusieurs qui disent même que c'est le chef-d'œuvre de Bill Mitchell. Puis je le précise parce que Buick utilisait le nom Riviera depuis les années 40, hein, mais c'était une version d'un modèle déjà existant et non un modèle à part entière. Mais là, en 1963, c'est vraiment devenu un modèle exclusif. Puis les amateurs de muscle car vont m'en vouloir si je ne mentionne pas les Skylark, GS et GSX des années 60 et 70, et surtout la Régale Grand National des années 80, qui est un modèle très recherché par les collectionneurs aujourd'hui. Alors, sachez-le, Buick a pas seulement fabriqué des grosses voitures luxueuses et confortables, il y a aussi eu des bolides avec l'écussion Buick.
Ben oui.
Et comme c'est le cas pour toutes les marques américaines, ben Buick va connaître des moments moins glorieux, hein, après le premier choc pétrolier de 1973. Là, ce sont les années, là, la dernière partie des années 70, ce sont les années des systèmes anti-pollution là, qui castrent littéralement les moteurs puissants. Ce sont aussi les années du downsizing, c'est-à-dire la réduction du format des véhicules. Et dans les années 80, surtout, Buick va traverser une véritable crise existentielle, en offrant des modèles compacts et abordables, ce qui va à l'encontre de sa vocation originale, de son ADN même.
Ah oui.
Et Buick, hein, tu te rappelles des Skyhawks, Daniel?
Oui.
Oui, c'est ça. Hein? beau clone de la Sunbird, là.
C'était
magnifique.
Spécial.
Magnifique.
Mais au moins, on avait placé un bloc instrument digital qui faisait quand même un petit wow quand t'embarquais dans la voiture.
Mais qui fonctionnait jamais,
c'est ça, qui était toujours brisé, puis tu tombais au noir assez rapidement. Sauf que tu déchantais lorsque tu tournais le moteur, puis tu partais avec la voiture. Ça n'avait rien à voir avec
ça. Non, c'était de la mécanique un peu agricole, effectivement, il faut le dire. Ben, écoute, c'était des clones de la Chevrolet Cavalier.
C'est ça.
Et Buick va souffrir beaucoup de son image à ce moment-là. Ça va faire très, très mal. Et Buick souffre aussi de la perception des gens. Parce que Buick, dans l'esprit des gens, c'est une marque, disons, gérontologique. On l'associe à une clientèle âgée. Hein? Puis les perceptions, tu le sais, Daniel, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à changer.
Énorme.
Alors, même si Buick est une marque métamorphosée là, dans cette deuxième décennie du 21e siècle, ben, cette perception-là lui colle encore à la peau. Du moins en Amérique du Nord. Parce qu'en Chine, laisse-moi dire que rouler en Buick, là, ça n'a pas l'air d'être un problème.
Et
on va se parler de l'enclave.
On va parler de l'enclave dans un instant.
Dans le prochain bloc. Oui, je vous ai gardé ça.
Bon, ben merci Philippe. Alors, on va à la pause et au retour. Buick enclave. Restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Nous voilà de retour à Auto 360 et tel que promis, nous allons parler maintenant du Buick Enclave. Philippe, c'est un véhicule que tu as récemment essayé.
Ouais, que je connaissais déjà, comme toi d'ailleurs, parce qu'on a conduit le modèle de première génération, on l'a conduit à plusieurs reprises d'ailleurs. Et tu sais, dans le bloc précédent, quand on faisait l'historique de Buick, on parlait beaucoup, le mot qui revenait souvent, c'est métamorphose. Et cette métamorphose de la marque Buick, elle a vraiment commencé au début des années 2000 et elle découle directement de l'engouement généralisé pour les VUS, les véhicules utilitaires sport, et leurs dérivés, les véhicules multisegments. En 2004, Buick commercialise le premier VUS de son histoire, le Rainier.
Oui.
Mais avant, il y avait eu une tentative de modèle de multisegment avec le Rendez-vous en 2001.
Ah oui.
Mais il y a un problème, le Rendez-vous, c'était un clone du Pontiac Aztec. Ce qui est un lourd handicap à porter dans la vie. C'était à peine plus beau qu'un Aztec.
Rappelle-nous rapidement, là, c'était quoi un Aztec?
C'était une très bonne idée, très, très, très mal exécutée. On avait essayé de faire un véhicule. Là, on voulait vraiment faire, tu sais, là, quelque chose d'utilitaire et de sport à la fois. Alors, on voulait un véhicule qui contenait autant qu'une mini-fourgonnette, mais qui était capable d'aller dans le bois et qui se conduisait comme une autosport. OK, jusque-là, l'idée est noble, on n'a rien à dire.
Puis qui se prenait pour une mini-fourgonnette en même temps.
Mais écoute, l'exécution était ultra bâclée. Évidemment, les bean counters de GM sont arrivés là-dedans, là, les comptables. Là, bon, faut pas que ça coûte trop cher ici et ça. Puis on nous disait, entre autres, qu'il y aurait une partie sportive là-dedans. Oublie ça, t'as même moteur de 3,4 litres, si ma mémoire est bonne, qui était un veau. Et la carrosserie, honnêtement, on était à peu près tous convaincus que c'était des designers qui, pendant une brosse, avaient pris une gageure.
Et ils nous avaient fait un coup épouvantable lorsqu'ils nous ont présenté ce véhicule-là à Whistler parce qu'ils l'ont dévoilé tout au haut des pentes pour être certain que personne puisse se sauver.
Puis c'était violemment pas beau. Puis c'était à se demander comment ça se fait en plus que c'est allé en production. Parce que quand ils ont fait des focus group pour l'Aztec, écoute, le monde avait des boutons. Ça ne scorait pas du tout dans un focus group, mais il y a quelqu'un quelque part qui a dit là, chez GM, tu sais, des GM déjà, là, à la fin des années 90, début des années 2000, ça allait de moins en moins bien, puis là, il disait, faut qu'on se réinvente. Ben, quand tu te réinventes, mais que tu n'écoutes personne, ben, tu arrives justement.
Qu'est-ce que ça donne?
Ben, tu arrives avec la solution à un problème qui n'existait pas, là.
Et tu sais, Philippe, aux États-Unis, ils ont la chance. Ben, ils ont la chance. L'Aztec est redevenu populaire avec la série Breaking Bad.
Oui.
Utilisaient l'Aztec et la demande est redevenue à la hausse et les véhicules ont repris de la valeur grâce à cette série-là.
C'est vrai, mais je t'invite quand même à lire le dernier numéro de Car and Driver qui est en kiosque présentement où on nous explique noir sur blanc que c'est pas parce que ça revient à mode que c'est cool et surtout c'est pas parce que ça revient à mode que ça va devenir un classique ne sera jamais.
Ça n'arrange pas le passé.
Écoute, ça c'était vraiment un fiasco là, sur toute la ligne, sur toute la ligne. Tu peux pas, tu sais, rétroactivement, des fois, 10 ou 20 ans plus tard, tu peux trouver certaines qualités, dire le marché n'était pas prêt, etc. Non, dans le cas de l'Aztec, c'est le contraire.
Mais même l'attente, on peut peut-être dire que l'attente a bien réussi, là, l'accouplement avec l'attente. Moi, j'ai jamais été capable de l'installer, mais il y a des gens qui ont réussi. Là, avec deux, trois ingénieurs, là, ils ont réussi à monter l'attente à l'arrière.
Si ça avait été une bonne idée, il y aurait quelqu'un qui l'aurait copié depuis.
OK.
Hein? Ça fait quasiment 20 ans. Là.
Ben, j'essaie d'être positif.
Oui, c'est ça. C'est dur avec l'Aztec. C'est pas mal dur. Alors, la carrière du régnier va être très courte parce que la mode, justement, est plus au VUS traditionnel. Là, quand on est rendu au début des années 2000, là, les vrais VUS qui reposent sur une plateforme de camionnette. Puis le régnier, en plus, là, c'était la même plateforme que le défunt GMC Envoy et le défunt Chevrolet Blazer, qui étaient déjà des véhicules vieillissants. Alors, la mode, elle est aux véhicules multisegments, qui sont des automobiles déguisés en VUS. C'est ce qui remplace, là, en quelque sorte, les familiales, ce qu'on appelait dans ma jeunesse, là, des station wagons. Et en 2008, la gamme Buick atteint un sommet historiquement bas avec seulement trois modèles. On en parlait tantôt, la Lacrosse, la Lucerne et l'Enclave, qui vient remplacer le Rainier en 2007 pour l'année modèle 2008.
Puis à peu près seulement l'Enclave qui avait du succès.
Ben justement, l'Enclave, c'est un multisegment qui partage sa plateforme avec le Chevrolet Traverse, le GMC Acadia et le défunt Saturn Outlook. Et là, justement, c'est le bon véhicule au bon moment. Parce qu'il devient, tu avais absolument raison, le meilleur vendeur de la gamme Buick en Amérique du Nord. En fait, dans les faits, là, l'Enclave remplace à lui tout seul là, trois modèles. Il remplace le Rainier, le VUS traditionnel. Il remplace le Rendez-vous, qui était la tentative ratée de multisegment. Puis il remplace la mini-fourgonnette Terrazza. Parce que oui, il y a déjà eu une mini-fourgonnette Buick. Fait que c'est du 3 pour 1, là. Et aujourd'hui, la gamme Buick compte trois véhicules multisegments en plus de ses automobiles. Alors, il y a l'Encore, qui est le plus petit, l'Envision et l'Enclave. Un petit, un moyen et un large. Et c'est l'Enclave qui est le plus gros des trois. C'est le plus luxueux aussi, donc vous l'aurez compris, c'est le plus cher. Prix de départ à 49 690, ça va jusqu'à 63 690. Si on fait des chiffrons, là, 50 000 à 64 000 à peu près. Et il y a une nouvelle version hein, dans le langage Buick. Là. On veut créer comme une sous-marque, un petit peu comme Denali avec les GMC. On a des versions maintenant qui s'appellent Avenir. Alors, si vous avez une Lacrosse ou si vous avez un Enclave version Avenir, ben là, vraiment, vous avez
le haut de gamme.
Le plus ultra équipé. Voilà. le haut du haut de gamme. Alors, la concurrence d'un Buick Enclave Avenir, ben, c'est l'Acura MDX, c'est le Lexus RX, l'Infiniti QX 60. Alors, on vise vraiment les VUS haut de gamme japonais. Et si vous vous demandez jusqu'à quel point c'est important d'avoir ce genre de véhicule dans sa gamme de modèles, là, ben sachez que les multisegments représentent 80 % des ventes de Buick. Et c'est grâce à eux que les ventes de Buick augmentent au Canada. Et c'est là encore, le plus petit des trois, qui est la catapulte de cette augmentation des ventes-là. Après 10 ans, par contre, l'Enclave là, était vraiment due pour un renouvellement. Et moi, j'ai été agréablement surpris avec le nouveau véhicule. C'est un nouveau design qui est plus sculpté, qui est moins rond. Il a l'air un petit peu moins joufflu que le modèle précédent. Ceci dit, il faut comprendre moi bien, Daniel, il n'y a pas de révolution non plus. Hein? Il a quand même un air de famille avec son prédécesseur, puis on le reconnaît tout de même au premier coup d'œil. Mais il est aussi moins lourd. Là, par contre, le choix des mots est important ici, hein, Daniel? J'ai dit moins lourd, j'ai pas dit plus léger.
OK.
Parce qu'un Enclave tout équipé avec la traction intégrale, là, ça pèse quand même 2 tonnes. Ouais. Et pour déplacer cette lourde carcasse, on fait encore appel au V6 de 3,6 litres. Alors oui, c'est fondamentalement le même moteur qu'il y a 10 ans, mais il faut préciser qu'il a subi des modifications en cours de route. Là. La plus importante étant, à mes yeux, l'ajout de l'injection directe, qui visait à la fois à le rendre plus puissant et moins gourmand. Le résultat de ça, ben, c'est que ce V6 produit aujourd'hui 310 chevaux, ce qui est quand même 35 de plus qu'à sa sortie il y a 10 ans. Le couple est de 266 livres par pied, mais on atteint le maximum plus rapidement, c'est-à-dire à 2800 tours minute, alors qu'auparavant c'était 3400. Et la boîte automatique qui est toute nouvelle aussi, c'est une boîte à 9 rapports qui est beaucoup plus souple que l'ancienne boîte à 6 rapports. Et ça, je peux te dire qu'on l'a remarqué tout de suite en conduisant le véhicule. Là. C'était même une des faiblesses de l'ancien modèle. Là. Et un mot pour résumer cette nouvelle mouture de l'enclave, Daniel, ce serait le mot « plus ». L'enclave est améliorée à tous les chapitres, plus puissante, plus confortable, encore mieux insonorisée et plus luxueuse que jamais avec l'ajout de la version à venir. Et si la tendance se maintient, ça devrait être un véhicule fiable parce que Buick est la marque de GM qui obtient les meilleurs résultats dans les sondages de fiabilité depuis des ans et l'enclave jusqu'à maintenant n'a pas fait exception.
Merci beaucoup, Philippe.
Tu rends le port complet, ça?
Très complet. Bon. Merci. On n'en demande pas plus.
Salut, Daniel.
Merci. Alors, voilà. Au retour de la pause, promis, on répond à vos questions. Restez avec nous.